very good trip. C'est parti. Les plus célèbres de l'histoire du rock, une succession de 7 notes brèves qui suscite aussitôt entendu un frisson de joie, bah c'est le célèbre Layla de Eric Clapton en 1970. Alors, mais dit comme ça, au mieux c'est un raccourci, au pire c'est inexact et au fond c'est injuste. Parce que déjà à la lettre, Layla n'a pas été publiée sous le nom de Clapton. Hein, alors les puristes me pardonneront, j'espère, d'avoir raccourci cette chanson. Elle a été signée à sa sortie par un groupe qui s'appelait Derek and the Dominos, un nom délibérément désuet pour la période et qui renvoyait au doo-wop et au début du rock'n'roll avec lesquels, enfin, la musique de Clapton avait peu de choses à voir. Alors, surtout cette chanson, elle doit beaucoup, enfin en particulier cette intro devenue légendaire, à un autre musicien qu'on va pas mal écouter ce soir. Alors, pourquoi Eric Clapton s'était-il caché derrière ce nom étrange? Parce qu'il voulait alors fuir plus que le vedettariat, une sorte de déification un peu ridicule. Quelqu'un avait écrit quelques années auparavant à Londres, c'était un graffiti, Clapton is God, et c'est vrai, il suffisait alors que celui-ci apparaisse avec sa Gibson sous son immense casque de cheveux crépus, d'abord au sein du trio Cream, hein, l'inventeur du hard rock, puis de l'éphémère Blind Faith, pour qu'on attende de lui des prodiges surhumains. Un public jeune et naïf voyait alors en effet fait en Eric Clapton une sorte de, oui, de dieu vivant, de Jimi Hendrix blanc. Et lui, à ce moment-là, eh bien, il ne supporte plus cette pression. Il décide brusquement de tout lâcher. Lors de l'unique tournée du groupe Blind Faith en 69 aux États-Unis, il se lie avec un couple de musiciens qui est basé à Los Angeles, qui s'appelle Delaney and Bonnie. Ils sont profondément imprégnés de musique noire traditionnelle, blues et soul, et surtout, ils sont accompagnés par un remarquable pianiste et orchestrateur, Leon Russell, récemment disparu, on l'a évoqué dans cette émission il y a quelques mois, et Russell avait réuni un groupe de musiciens originaires comme lui d'une ville qui s'appelle Tulsa, c'est dans l'Oklahoma. Et grâce à ces musiciens avec lesquels il devient ami, Clapton découvre un musicien de cette ville qui est pour ainsi dire son exact contraire. Un guitariste et compositeur qui s'appelle J.J. Cale. Et celui-ci est une sorte de légende dans leur milieu, mais une légende qui est complètement à l'opposé de celle de Clapton. Un type reclus et effacé, dont le jeu et le style sont aussi sobres et parcimonieux que ceux de Clapton sont flamboyants. Peu de notes, hein, mais chacune extrêmement sentie. Et Clapton a alors une révélation. La musique qu'il veut faire, eh ben, c'est celle-là. Loin d'une surenchère de bruit, d'outrance et de virtuosité vaine qu'il rejette. Alors c'est décidé pour lui. Il va pour ainsi dire disparaître en tant que superstar, se fondre dans la masse et évidemment, il y aura un changement de style qui va aller avec ça. Clapton remonte à ce moment-là le cours du fleuve de la musique et il part à la recherche des sources pures, celles qui ont fait naître le blues, cette musique pour laquelle il nourrit depuis l'enfance une véritable dévotion. Et la source du blues, bah, comme on sait, c'est le sud des États-Unis. Clapton recrute les musiciens de Delaney and Bonnie et il part enregistrer à Miami, en Floride, un album de musique traditionnelle américaine au pluriel. Celui qui réalise le disque, Tom Dowd, c'est un ingénieur du son qui a travaillé auprès des plus grands chanteurs et chanteuses soul pour la firme Atlantic. Ça va de Ray Charles à Aretha Franklin. Et il emmène Clapton, entre deux séances, voir un concert d'un groupe du coin qui s'appelle très simplement The Allman Brothers Band, le groupe des frères Allman. Et c'est ainsi que Clapton découvre un jeune guitariste qui l'éblouit. C'est de lui que je vais vous parler ce soir, Duane Allman, qui a la guitare Fender Stratocaster, dont il joue en slide, c'est-à-dire avec un tube de métal qui fait glisser sur le manche, développe un jeu blues profondément senti. Alors pourquoi parler de lui ce soir ? Eh bien parce qu'on vient d'apprendre la mort de Greg Allman, le frère cadet de Duane, qui avait fondé avec lui à la fin des années 60 le Allman Brothers Band. Greg Allman a longtemps continué à animer ce groupe après la mort brutale de Duane, tué brutalement à l'âge de 24 ans en 71 dans un accident de moto. Ça s'imposait de rendre hommage au jeu de guitare de Duane Allman qui, en à peine quelques années, 68-71, a illuminé certains des plus beaux enregistrements du blues et de la soul. Alors, ce que vous allez entendre, vous connaissez la chanson, évidemment, vous allez reconnaître ça tout de suite, mais le chanteur peut-être moins. C'est un des très grands noms de la soul, Wilson Pickett, originaire du sud profond, l'Alabama. Il avait grandi à Détroit et enregistré à Memphis, puis à Muscle Shoals, dans l'Alabama, justement, l'état où il était né. Détail qui a cette importance, dans cette version de Hey Jude, bah oui, il faut le nommer, et qui se conclut par un solo de Duane Allman, Wilson Pickett pensait que Jude était un nom de fille, alors c'est chaud. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her in your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulders.
don't let me down. You found her, now go on out and get her. But remember to let her in your heart. Then you can start to make it better. So let it out and let it in. Hey, Jude, begin. You waited for someone to perform with. And don't you know that it's just you? Hey, Jude, you do. The movements you need is on your shoulder.
Shake For Me du blues sur Inter ce soir, un blues à la moiteur du Sud, enregistré en 1970 par un musicien blanc à la voix très noire, vous l'avez entendu, du nom de John Hammond Jr. Un classique écrit par un des plus grands artisans du blues de Chicago, Willie Dixon, auteur de pas mal de classiques pour Howl & Wolf et Muddy Waters. Alors pourquoi John Hammond Jr.? Et bien parce que son père, l'historique John Hammond, est celui qui, au service des disques Columbia à New York, a découvert et soutenu Billie Holiday, c'était déjà dans les années 30, ainsi qu'une trentaine d'années plus tard, Bob Dylan et Leonard Cohen. Et oui, c'était le même homme qui a découvert ces trois artistes. Alors son fils, John Hammond Jr., donc, s'est passionné dès son plus jeune âge pour le blues rural du delta du Mississippi. Il est devenu très vite un virtuose de la guitare. Il avait d'ailleurs aussi un grand talent de découvreur, puisque c'est lui qui le premier a repéré en 1964 dans un bar de Toronto au Canada, un groupe justement de Canadiens assemblés autour d'un batteur, guitariste et chanteur originaire du sud profond des États-Unis, Levon Helm, un groupe qui dès l'année suivante a accompagné Bob Dylan en tournée et a ensuite connu la célébrité sous le simple nom de The Band. The Band dont l'exemple a aussi beaucoup contribué au virage de Eric Clapton vers les musiques traditionnelles américaines, comme quoi tout est lié. En tout cas, John Hammond Jr. a enregistré un album en 1970 qui s'appelle Southern Fried, un frit à la sudiste, dans les studios de Muscle Shoals, c'est dans le nord de l'Alabama, à l'est de Memphis, là où des musiciens blancs avaient accompagné quelques années auparavant les plus grands chanteurs soul noir, Wilson Pickett, on l'a entendu, mais aussi Percy Sledge et Aretha Franklin, on l'entendra aussi tout à l'heure. Et c'est encore Duane Allman qu'on a entendu à la guitare slide dans ce titre de John Hammond Jr. On va le retrouver dans un excellent titre interprété par une chanteuse anglaise qu'on écoute plus beaucoup, peut-être même plus du tout, et c'est très dommage parce qu'elle a été, avec la grande Dusty Springfield, une des plus belles voix de la soul britannique. Elle se faisait, se fait toujours appeler d'ailleurs, Lulu, hein, ça s'écrit comme Lulu, et après avoir connu son premier succès, c'était au début des années 60, à 15 ans, et enregistré de très bonnes chansons pop, eh bien Lulu est partie enregistrer un album à Muscle Shoals avec l'équipe responsable des meilleurs enregistrements de la musique soul américaine, c'est-à-dire le réalisateur artistique Jerry Wexler, l'ingénieur du son Tom Dowd, hein, le collaborateur de Clapton, et l'orchestrateur d'origine turque Arif Mardin, futur associé des Bee Gees. Et dans l'équipe des musiciens d'élite qui accompagnent Lulu, eh bien, il y a Duane Allman, qu'on entend dans cette chanson qui s'appelle Dirty Old Man, hein, vieux dégueulasse. Alors si ça vous plaît, procurez-vous l'album The Atco Sessions de Lulu, hein, les séances pour Atco, hein, la sous-marque de Atlantic qui alors diffusait ses enregistrements, et vous me remercierez. Don't you cry and hold my hand. Yeah, baby, don't you cry. Except don't you cry and hold my hand. No, no, no. Should listen to your mama. He ain't the kind to walk the line, spend his last dime on a jug of wine. He's a dirty old. Baby,
He's a dirty old man.
Vertigo Trip sur France Inter.
La guitare slide de Duane Allman pour accompagner la voix, et quelle voix, hein, vous avez dû être nombreux à la reconnaître, celle de Aretha Franklin dans The Wait, une chanson qu'elle a enregistrée en 1969 au studio de Muscle Shoals, je vous en ai parlé, pour les besoins d'un 45 tours, un single si vous préférez. The Wait, c'est une chanson extrêmement célèbre, c'est celle qui a fait connaître à la fin de l'année 68 le groupe The Band. Alors je me rappelle d'ailleurs l'avoir découverte à la radio encore enfant et avoir été fasciné par son mystère. The Wait était une sorte de gospel, on n'avait pas l'habitude d'entendre ça au Hit Parade, il y avait plusieurs voix qui se répondaient et on avait l'impression que cette chanson témoignait d'une expérience grave et sérieuse, enfin en tout cas intimidante. Sur les photos, les membres de The Band avaient tous l'air de vieux, ils avaient des barbes, il y en a un qui était chauve et ils portaient en pleine période hippie, flamboyante, des vêtements austères qui semblaient sortir de la guerre de sécession. Et la chanson, alors j'ai appris ça en me documentant, traduit poétiquement l'expérience de celui qui l'a écrite, le guitariste canadien du band, Robbie Robertson, quand il est arrivé pour la première fois à Memphis, un peu la terre promise du rock'n'roll, et qu'il a découvert réellement ce sud profond d'où venait son camarade Levenhelm, et voilà, dont il lui parlait beaucoup, et évidemment pour lequel il avait nourri une fascination. Il a ainsi mis en scène dans cette chanson The Wait un personnage de voyageur qui qui chemine sur les routes et qui veut rendre service à tout le monde pour se faire accepter et pour qui les choses tournent immanquablement très mal. Voilà, le personnage a voulu se charger d'un poids, the weight qu'on lui a confié, et il se rend compte que peut-être c'est une malédiction. Une métaphore de l'initiation par laquelle passe tout musicien, tout artiste d'ailleurs, et c'est une chanson immortelle. À présent, une voix que le grand public ne connaît guère, c'est celle de Clarence Carter. C'est un chanteur et musicien noir de l'Alabama, aveugle comme Ray Charles, et qui, comme Ray Charles également, a appris la musique avec succès dans un institut qui dispensait un enseignement en braille. Carter a eu un succès en 1972 avec une chanson entre country et soul, hein, c'est le sud, hein, ça se mélange, une chanson qui s'appelait Patches, et que Eddie Mitchell a adapté en Cash. Oui, la chanson de Eddie Mitchell disait, je me rappelle, Cash, j'ai toujours payé cash mes querelles et mes amours. Voilà, c'était la période où il se coiffait comme Elvis. Bref, Clarence Carter a chanté en 1967 au studio Fame de Muscle Shoals cet excellent blues un peu moite à la chaleur du sud où on entend encore une fois Duane Allman faire des merveilles à la guitare. On entend d'ailleurs Carter, à un moment vous l'entendrez, s'exclamer enthousiasmé par le jeu du garçon. Eh, hey, j'aime ce que j'entends. Clarence Carter, The Road of Love.
Baby, I ain't going down that road of love by myself. No, no, I ain't going down that road of love by myself. Now if you won't go with me, baby, I guess I just have to get somebody else. Oh, darling, I hope you feel the same way too. Baby, I sure hope you feel the same way too. 'Cause as long as we have each other, I'll have your love to see me through. And oh, baby, let's walk together hand in hand. Oh, baby, 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 let's walk together hand in hand. Oh, Lord, and you can be my little woman, and I know I'm gonna be your man. Just one thing, baby,
child before you go. There's gonna be judgment in the morning, baby. There's gonna be judgment in the morning, baby. Gonna reap for what you sow. You'll never make the jailhouse for the things you do. You'll never make the jailhouse for the things you do. But there's gonna be judgment in the morning, baby. There's gonna be judgment in the morning, baby. It will all come back on you. You never buy with money. What you throw away. Never buy with money what you throw away. You're gonna be mourning in the morning, baby. You're gonna be mourning in the morning, baby. You made your bed that way.
You reap what you sow. On récolte ce que l'on sème. La voix, sans doute une des plus belles du blues, celle de Otis Rush. Otis Rush, c'est un musicien originaire du Mississippi. Il n'est pas le seul dans le blues. Parti trouver du travail à Chicago au début des années 50, il n'est pas le seul non plus. C'est l'exemple de Muddy Waters qui lui a fait adopter la guitare. Alors, détail curieux, Otis Rush a appris tout seul à jouer d'un instrument classique de droitier, mais à la façon du gaucher qu'il était, sans pour autant en inverser les cordes. Otis Rush a enregistré quelques classiques à la fin des années 50, certains composés par Willie Dixon, je vous en ai parlé, à qui on doit certains des plus grands standards du blues, des titres repris par tout le monde, les Yardbirds, Led Zeppelin, enfin les Stones, tout le monde. C'est en tout cas Otis Rush qui a créé un titre qui s'appelle Double Trouble. C'est une chanson qui a inspiré le nom de son groupe, hein, au fameux guitariste texan des années 80, Stevie Ray Vaughan. Un mot sur la chanson qu'on a entendue, You Reap What You Sow. Elle a été composée et réalisée en 69 par deux musiciens blancs qui étaient alors plutôt jeunes, des musiciens de Chicago, le grand guitariste Mike Bloomfield, accompagnateur de Bob Dylan, et Nick Gravenites, qui avait débuté en accompagnant l'harmoniciste blanc Paul Butterfield, un immense connaisseur de blues comme eux. Ils avaient soutenu et accompagné Otis Rush dans ce très bel album enregistré encore une fois à Muscle Shoals qui s'appelle Mourning in the Morning, endeuillé le matin. Évidemment, ça rend pas le jeu de mots entre morning, être en deuil avec un U, et morning le matin. En tout cas, ça, voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors, quelqu'un sur qui le style vocal de Otis Rush a eu une immense influence, eh bien, c'est Eric Clapton. Ça s'entendait dans ce titre. Où, là encore, une fois de plus, on a entendu Duane Allman à la guitare slide. On va quand même avoir un avant-goût de l'Allman Brothers Band dans ce titre qui s'appelle Hot Lanta et qui est extrait du plus célèbre album du groupe The Allman Brothers Band at Fillmore East, soit sur la scène du Fillmore de la côte Est, à celui de New York. C'était en mars 71. Blues, soul, country, jazz avec un parfum de percussion latine, The Allman Brothers Band. We'll be right back. ça, c'était une curiosité. Alors, la chanson s'appelle Going Upstairs. Alors, peut-être que certains parmi vous connaissent un tube du milieu des années 60 qui s'appelle Woolly Bully. Une chanson aussi débile que géniale. On entend un type qui hurle sur une espèce de cha-cha-cha, des paroles incompréhensibles avec un fort accent hispanique. Une chanson attribuée à Sam the Sham and the Pharaohs, un groupe qui était animé par un chanteur et organiste d'origine mexicaine, Domingo Zamudio, dit Sam, qui, quoique ayant appris la musique au conservatoire, avait gagné sa vie comme forain. Et lui et ses musiciens étaient habillés comme des fakirs d'opérette, mais enfin, ils s'appelaient les pharaons parce qu'ils avaient bien aimé les costumes du film Les Dix Commandements. Enfin, c'était pas très clair dans leur tête. Ah oui, et puis transporter aussi leurs instruments dans un corbillard parce qu'ils trouvaient ça plus commode. Bref, Zamudio, dit Sam, a enregistré en 71 à Miami un album solo attribué donc tout simplement à Sam et qui s'appelle Hard and Heavy, sur la pochette duquel on voit le dit Sam jovial, barbu, en débardeur rouge, enfourchant une Harley Davidson, un gros sac de campeur bien arrimé à l'arrière du siège. Un album qui a réalisé Tom Dowd, qui a fait appel, entre autres, à qui? Eh oui, à Duane Allman. Duane Allman qu'on va encore retrouver dans un éblouissant duo, cette fois acoustique, avec son admirateur Eric Clapton. Ça s'appelle Mean Old World, c'est la reprise d'un blues de l'harmoniciste Little Walter, qu'on a pu découvrir dans une réédition de l'album de Derek and the Dominoes, album qui s'appelle Layla and Assorted Love Songs.
Thank you.
Very Good Trip sur France Inter.
Come on in, enjoy that boy. Lord, he just not left. My husband just not left.